Même principe que tout à l'heure, on va se donner 20 minutes de discussion, de complément, d'intervention, avant de nous diriger vers la sustentation. On dit ça ? Se sustenter, la sustentation ? Je ne sais pas, ça vient de me venir. Enfin, le repas, quoi. Voilà. La mangeation. Vous avez la parole, madame. Même principe que tout à l'heure.
Je me représente ?
Oui, parce que...
Daniel Cornet, vice-président de la communauté d'agglomération Plaine Centrale Val-de-Marne. Oui, au-delà des propos qui ont été tenus à l'instant par François Bernard, que je partage largement, ainsi que ceux de M. Dinet qui repositionne effectivement l'idéal politique dans nos décisions et dans nos propos et notre engagement politique, au-delà de ces propos, je voulais revenir sur quelque chose de très concret sur les territoires, parce que en fait on est confronté à un paradoxe. C'est-à-dire que finalement beaucoup de structures de l'insertion par l'activité économique se retrouvent dans l'innovation sociale, puisqu'ils sont eux-mêmes au cœur des niches de réponse aux besoins non couverts. On le voit avec les jardins bio d'insertion que M. Mensch met en place sur son territoire et sur bien d'autres territoires. On le voit dans des ressourceries qui font un travail sur la récupération des déchets et de la transformation des déchets. On le voit dans des niches de cet ordre-là. Et alors le paradoxe, c'est finalement ces structures doivent rester des structures de passage normalement et ne doivent pas s'inscrire comme dans la durée par rapport au public qui sont reçus. Et alors que ces structures sont au cœur de l'innovation sociale et qu'elles pourraient être à l'origine de la création d'activités et de la création de richesses sur le territoire, ainsi que de création de filières de formation et de capacité de certification de qualité dans ces territoires, elles restent en deçà de cela parce que justement ça demande et un élargissement peut-être de leurs fonctions et de l'investissement, de la reconnaissance et des vrais travaux de prise en compte de ces niches en termes de filières, de possibles de création de richesses et d'emplois sur les territoires. Moi, je suis confrontée à ça sur les territoires parce que je suis sur l'insertion par l'économique et l'ESS, et je me rends compte pour soutenir ces structures-là, comme le disait très bien M. Mensch, on a besoin d'un plus grand partenariat au niveau de l'investissement et de la reconnaissance. Donc, voilà le paradoxe. Il y a de l'innovation sur les territoires, mais après, il y a ce passage de passer de l'innovation à l'inscription de ces nouveaux emplois, ces nouvelles création de richesses sur les territoires, ces nouveaux acteurs économiques. Et ça, c'est là où moi, je pense que là, il y a un vrai travail que l'État, en tant que tel, pourrait inscrire aussi dans ses objectifs.
Alors juste, c'est typiquement le sujet que nous allons travailler avec les intervenants qui seront autour de la table, à la table ronde de tout à l'heure, sur nouvelles activités, relocalisation d'activités. Quelqu'un de juraterie qui passe de statut d'entreprise d'insertion au statut d'au-dessus, en passant du tri sélectif à la valorisation des déchets électriques et électroniques, est en train de vivre un petit peu ce que vous décrivez. Et on pourra demander à Pierre Grosset de nous expliquer tout ça, et ça donnera lieu à discussion. Madame.
Oui, bonjour, Muriel Jean, je suis chargée de mission, enfin, je fais des projets sur la mise en place de l'ESS dans un développement territorial. Et moi, je m'interrogeais sur les critères d'évaluation, l'introduction de critères d'évaluation qualitatifs sur le vivre ensemble quant à l'évaluation de ces projets. Parce qu'en général, on est sur des critères quantitatifs, notamment au niveau des élus, etc., pour les financements, et ça me semble un petit peu problématique. Et également sur les conditions de contrôle du respect des valeurs de l'ESS, qui me semble là aussi être complètement occultée. Or, on sait bien que même dans les acteurs traditionnels de l'ESS, certains sont en délicatesse.
Que le statut ne fait pas la vertu, vous voulez dire. Très bien. Pardon ? Il ne l'interdit pas non plus, c'est vrai. C'est vrai. On n'est pas dans le domaine de l'exclusif. Je ne sais pas qui peut répondre ou qui voudrait répondre à ça.
La question des indicateurs est extrêmement importante. Ça vaut pour des combats qu'on mène actuellement, par exemple, sur la nomenclature budgétaire dans un département où toutes les actions en direction des personnes âgées, personnes handicapées, etc., enfance et compagnie, sont classées dans les dépenses de fonctionnement. Or, on est manifestement dans de l'investissement humain. Bon. Ça vaut sur des critères de richesse qu'on a ensemble à travailler, y compris pour rentrer dans cette dynamique de ou de simple mobilisation des acteurs locaux. Donc il y a des petites expériences qui ont commencé. Je ne sais plus dans quelle expérience, je crois que c'est la Loire ou Loire-Échappe, je ne sais plus, ou la Haute-Loire, je ne sais plus, c'est Vivray qui en est l'animateur, sur la mise en place d'indicateurs d'autres richesses. Mmh. Bon, ces choses-là doivent être... Ça, faut qu'on, voilà des choses qu'on pourrait, au niveau des réseaux, mutualiser pour essayer de voir comment on se donne une grille commune de lecture dans ce domaine. C'est extrêmement important parce qu'en plus, la pédagogie pour les élaborer est elle-même une pédagogie de mobilisation sur les territoires.
Processus performatif, on pourrait dire.
Oui, oui.
J'ai dit sustentation et performatif. Hein.
Oui, c'est...
J'ai peut-être j'ai une liste de mots que je vais caser.
Oui.
Ça s'aggrave. Attendez, il y avait madame... Ah bon, vous êtes... Bon, bah, ça sera à vous tout à l'heure, je vous promets.
Bonjour, Dominique Flora, donc je suis de Châteauroux et j'interviens pour quelques heures à l'IUT sur une licence professionnelle, management des organisations du tiers secteur. J'interviens en ingénierie de projet. Avant, j'étais donc élue régionale et donc j'ai travaillé sur l'économie sociale et solidaire en tant qu'élue aussi. Une petite question par rapport justement à la formation et à l'éducation. Par rapport aux valeurs que défendait M. Dimé, je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a un gros travail à faire. Moi, je constate en entretien notamment d'étudiants qui postulent pour la licence professionnelle à quel point le secteur de l'économie sociale et solidaire est totalement méconnu de la plupart des jeunes qui viennent là dans un élan de générosité souvent parce que ce sont des services à la personne, c'est tourné du côté de l'humain, mais ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut recouvrir en termes de développement économique, développement local. Ils sont là dans de la générosité, mais ils ne sont pas là dans une vraie connaissance du secteur et de toutes les potentialités qu'il peut apporter, à la fois en développement local et en création d'emplois. Et puis, deuxième remarque, dans le cadre de ces licences professionnelles, des étudiants donc, travaillent soit sur des projets tutorés, soit travaillent dans des stages et donc ont des rapports de stage à faire. Il y a là, dans ce secteur, une matière grise qui est mise en œuvre. Et souvent, il n'y a pas de lien avec les collectivités locales, c'est-à-dire que tout le travail qui a été fait par les étudiants n'est pas forcément utilisé pour pouvoir après être mis en œuvre dans des projets ou bien être étudié de la part des élus locaux, alors que souvent, même si c'est imparfait, il y a un vrai travail très utile en matière de diagnostic, en matière de débroussaillage de projets et d'innovation en matière d'organisation.
Merci. Il y avait madame là-bas et puis monsieur...
Oui, Patricia Andriot, vice-présidente du Conseil régional de Champagne-Ardenne, déléguée à l'ESS. Moi, j'aurais une question à poser aux trois témoignages qu'on a entendus, à la fois pour rebondir sur une des dernières interventions qui s'interrogeait sur la question de l'évaluation, mais aussi sur ce qui a été dit par Marie-Guide Dufay, je crois, sur la question des coûts induits non mesurés, quand des choses et des services ne sont pas rendus. Et puis quelque chose qui est dans la déclaration commune des collectivités qui appelle à se réinterroger sur la notion de création de richesse et sur la manière de la comptabiliser. Quelle est la dimension dans vos différents projets accordée à l'évaluation, et y compris à l'évaluation quantitative, pour essayer d'avancer vers cette mesure? Parce que je pense qu'il y a des enjeux majeurs pour faire progresser la notion d'utilité sociale et faire progresser du coup l'ESS, c'est bien la question de la comptabilisation de la richesse et d'avancer là-dessus. On voit bien que ça va être difficile d'avancer par le national et qu'il faut étayer ça. Et du coup, je trouve que la dimension évaluation de ce qui est fait sur les territoires, y compris quantitative, elle est très importante. Et voilà, où vous en êtes là-dessus.
Madame Sasso, peut-être.
Oui, enfin, je veux dire, je ne sais pas où on en est, mais je peux vous dire effectivement la méthode qu'on utilise. parce que, je veux dire, bon, faut pas non plus se voiler la face. Enfin, je veux dire, moi, je sais que par rapport à mes collègues élus, et par rapport à même l'argent dépensé, il va y avoir, il y a une demande de retour sur effectivement l'efficacité, parce que je veux dire, tout le monde n'était pas forcément convaincu au départ, et donc il y aura forcément à s'exprimer et d'une façon argumentée et aussi rationnelle sur les indicateurs. Et donc je pense que c'est et puis en plus de toute façon, je pense qu'aussi vis-à-vis de nos concitoyens, c'est de l'argent public dépensé, on doit pouvoir rendre effectivement l'utilité de cet argent. Je pense que c'est tout à fait logique. Donc ce qu'on a essayé de construire, c'est en même temps qu'on a fait notre programme de coopération sur l'économie sociale et solidaire sur notre territoire. On a en même temps construit des groupes de travail qui à la fois sont chargés de travailler sur les indicateurs, et c'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui nous proposent des indicateurs qui nous permettent effectivement de travailler sur l'évaluation. Et il y a des indicateurs quantitatifs. Par exemple, nous, ce qu'on a mis l'accent, c'est qu'on souhaite développer l'entrepreneuriat. Eh bien, je veux dire qu'on a essayé de mettre en place des structures qui appuient l'entrepreneuriat, et donc on essaye d'avoir des mesures quantitatives sur effectivement les effets, la pérennité des entreprises créées dans le secteur, etc. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait quantitatif et normal, parce que ça fait partie de l'objectif. L'objectif aussi, c'est d'avoir effectivement de la création du lien social. Et je veux dire, par exemple, on a développé, je l'ai pas évoqué là-dessus, mais on développe aujourd'hui en ce moment des questions sur l'usage du numérique, et en particulier dans les quartiers qui sont plus envers les jeunes, et dans les quartiers les plus compliqués, on peut dire, de notre territoire. Eh bien, c'est effectivement d'essayer d'évaluer qu'est-ce que ça produit du point de vue de l'usage numérique en termes de coopération, de créativité, etc. Et donc là, on a tout à fait des indicateurs à inventer, mais je veux dire, on est en processus, et ce processus, on le fait en coopération avec les acteurs. C'est pas la collectivité ou un audit qui fait l'évaluation, mais c'est effectivement une coopérative qui crée effectivement ces indicateurs.
Merci. Peut-être une réponse, un élément de réponse à Madame Teller, c'est de rester jusqu'à la table ronde suivante. Marie-Christine Ponce, qui est présidente de la commission ESS Région Midi-Pyrénées, et qui avant a été active dans l'économie sociale et solidaire, notamment présidente d'une union régionale d'ESCOP. Dans la préparation qu'on a eue de ce débat, elle évoquait beaucoup cette question de l'émergence du porteur de projet, du portage de cette période qui est la même dans une entreprise dite classique et dans l'ESS, et puis de comment on arrive à valoriser aussi, puisque quand on crée une entreprise classique, on se dit qu'on va rester avec un capital si elle ne fait pas faillite et qu'on va transmettre, etc. Comment est-ce qu'on valorise à ce moment-là pour les porteurs de projets ou pour les salariés les plus, dans le quotidien du travail de l'économie sociale et solidaire? Et ça paraît important de pointer ça à l'heure où chaque salarié se pose la question de ses conditions de travail, du sens de son travail, de l'ambiance dans l'entreprise et de ces choses-là. Voilà, donc ça peut-être apportera ou vous permettra de poser d'autres questions. Monsieur, c'est à vous.
Hélène, en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, et par moments, j'avais l'impression d'entendre mon président. je pense effectivement que, par rapport aux questions qui ont été posées sur les indicateurs et sur la nécessité que les entreprises de l'économie sociale et solidaire se mesurent quant à la réalité des valeurs. Donc, sur le plan des indicateurs, si effectivement, comme on est dans une volonté de changer l'approche de l'économie sur un territoire, il est indispensable qu'en parallèle des actions que l'on peut mener, on essaie de se doter d'un certain nombre de moyens au-delà des critères strictement financiers, et pour essayer, et du PIB, pour essayer d'avoir des éléments qui nous permettent à la fois de mesurer ce qu'est la réalité des territoires, dans le sens qui était évoqué également par le président, mais aussi quel est l'impact des actions politiques qu'on peut porter au niveau de ces territoires. Et là, on a, au niveau du département d'Ille-et-Vilaine, avec la région, travaillé sur l'utilisation d'autres types d'indicateurs. On travaille sur un IDH, on travaille sur un ISS, on travaille sur des démarches qui associent les habitants d'un territoire pour essayer de définir des éléments qualitatifs qui permettent d'appréhender une évolution. Ça, on le mène, mais on n'est pas les seuls, hein, puisque le Nord, en particulier, travaille beaucoup sur ce champ-là. On le mène avec une ONG, PKA, pour essayer de construire ces indicateurs. Ça, c'est effectivement se doter d'une batterie d'éléments qui permettent de nous sortir du trou financier. L'autre élément, l'appréciation des membres des structures de l'économie sociale et solidaire sur ce qu'a été leur projet et l'évolution par rapport au projet en matière des valeurs. On a, sur l'Ille-et-Vilaine, créé un comité consultatif de l'économie sociale et solidaire qui associe un certain nombre d'acteurs représentatifs des différents secteurs d'activité sur une réflexion permanente, un petit peu parfois le poil à gratter des politiques départementales sur ce qu'on fait au niveau de l'économie sociale et solidaire. Et ce groupe, relayé par des acteurs des territoires, a très vite mis en évidence le fait d'une interrogation qui se posait. Est-ce que nous sommes bien toujours en ligne avec les valeurs qu'on avait lorsqu'on a construit notre projet? Est-ce qu'il n'y a pas eu un dérapage? Et là, on s'est doté d'un instrument qui est d'ailleurs disponible sur le site du département d'Ille-et-Vilaine et qui est en libre service. C'est le BIPES, le baromètre des indicateurs de progrès de l'économie sociale et solidaire, qui est un outil d'auto-évaluation par les entreprises pour effectivement mesurer les dérapages potentiels qu'il peut y avoir eu entre le projet qui les a conduits à créer leur structure et la réalité de la situation qu'ils traversent à l'heure actuelle.
Merci. Nous allons prendre deux dernières interventions dans un instant. Michel Dinet. Ah non, juste, j'ai cru que vous vouliez dire un mot, mais juste vous nous quittez. Donc, je vous en prie. Alors, j'avais mal compris. Merci de votre participation. Un train vous appelle. Est-ce que Estelle Grelier est arrivée? Estelle Grelier, je ne la vois pas. Elle est sûrement retenue en séance, elle est députée de Seine-Maritime, mais surtout vice-présidente de l'Assemblée des communautés de France, et elle aurait dû, vous avez vu, intervenir ce matin. Donc on va dire deux interventions, trois, alors une, deux, et il y en a peut-être une autre là-bas. Monsieur.
Bonjour, Maxence Jaunet, je suis étudiant, vice-président de la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, qui est une des principales organisations de jeunes en France à l'heure actuelle. Une remarque tout d'abord sur l'importance, à mes yeux, de rendre visible, mesurer, qualifier l'utilité sociale des associations. On en a parlé ce matin, en particulier les organisations de jeunes associatives qui permettent aux jeunes citoyens de prendre prise sur la société, de pouvoir donner du sens à leur engagement, donner du sens aussi à leur place dans la société. Oui, il y a une vraie utilité aux associations, ça doit être mesuré, ça doit être soutenu. Il y a un vrai rôle. C'est pour ça que j'étais vraiment sensible tout à l'heure lorsqu'on parlait de comptoirs dans les collèges, dans les lycées. C'est ce qu'on fait au niveau des universités avec des agorae, des espaces d'échange, de solidarité, avec une épicerie sociale, notamment dans les campus, pour les étudiants. Ça, c'est quelque chose qui doit être soutenu à nos yeux. On ne veut pas être transformé en entreprise sociale, on ne veut pas être transformé en SIC. Non, on a besoin d'associations étudiantes. On croit en ce rôle d'éducation populaire, avec le soutien des collectivités, de l'État, si possible.
Juste une question maintenant. Juste une question. Vos épiceries solidaires, oui, Elles fonctionnent. C'est pas du tout marchand?
Non, c'est géré par les associations étudiantes, des fédérations d'associations étudiantes, avec un cofinancement mixte. Mais c'est uniquement géré par les étudiants, non marchand, non lucratif, une gouvernance à l'image des bénéficiaires.
Mais les étudiants viennent acheter quelque chose quand même, ou vous leur donnez?
Ce sont les étudiants sur critères sociaux qui font un dossier qui leur permet d'accéder au volet épicerie solidaire de l'Agorae. En contrepartie, tous les étudiants peuvent accéder aux services, à l'accès aux droits, à l'accompagnement, à la culture, qui sont vraiment ouverts à tous les étudiants.
D'accord, merci.
Voilà. Donc, ma question, justement, je m'adresse aux deux intervenants restants. Comment est-ce que vous impliquez les jeunes de la construction des politiques en matière de SS? Est-ce que vous le faites? Et je serais très curieux de savoir comment ça se traduit au quotidien. Merci.
Merci. Je vous propose de prendre les trois dernières questions et puis on fera des réponses groupées.
Oui, bonjour. Marie Meunier-Paul, je suis conseillère régionale Languedoc-Roussillon, avec une délégation à l'économie sociale et solidaire depuis 2004. Je me réjouis d'une si nombreuse assistance aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'histoire avance beaucoup et qu'effectivement, nous avons tracé tous ensemble sur les territoires cette politique et cette stratégie de l'économie, de cette autre économie qu'est l'économie sociale et solidaire. Bon, je vais être très rapide, mais l'utilité sociale, nous, en Languedoc-Roussillon, nous l'avons travaillée dès 2006, puisque nous avons confié à la CRES une étude sur l'utilité sociale du Languedoc-Roussillon, ce qui nous a permis, à un moment donné, effectivement, de faire émerger un projet propre à l'économie sociale et solidaire au sein du schéma de développement économique régional, que nous avons appelé ESSOR, et de déterminer à partir de là une stratégie, une politique régionale autour de l'économie sociale et solidaire qui nous amène aujourd'hui à aller sur l'innovation sociale, puisque nous avons créé une école de l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire. Rapidement, il s'est avéré que gérer une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas gérer une entreprise traditionnelle. Il y a des critères et des valeurs à porter plus particulièrement. Ce n'est pas une entreprise du CAC 40, hein, j'insiste beaucoup. Et cette école, aujourd'hui, a formé plusieurs générations de jeunes et moins jeunes entrepreneurs pour gérer un certain nombre d'entreprises. Nous allons prochainement inaugurer une pépinière d'entreprises en économie sociale et solidaire aussi sur le territoire. Je tenais à le dire parce que c'est quand même une réponse très forte aux besoins d'un territoire où le taux de chômage est extrêmement important, comme malheureusement beaucoup en France, même si, et j'insiste beaucoup, l'économie sociale et solidaire n'est pas une économie de la réparation. C'est vraiment une économie à part entière aujourd'hui que l'on doit porter fortement sur les territoires. Merci.
Merci. Madame, dernière intervention.
Dounia Besson, vice-présidente au Grand Lyon, en charge de l'insertion, l'emploi et l'économie solidaire, et également adjointe au logement et à la politique de la ville dans le 9e arrondissement de Lyon. Et j'avais une question. J'ai une longue expérience aussi professionnelle dans les collectivités territoriales, et il est vrai que Daniel de Moustier a évoqué, a parlé d'innovation et surtout d'innovation institutionnelle, et je suis convaincue qu'aujourd'hui ce champ est à explorer. Aujourd'hui, coopérer sur les territoires, on coopère avec d'autres collectivités. Nous, sur le territoire du Grand Lyon, sur ce volet-là, avec la région, nous coopérons très bien. Mais tout l'enjeu est de travailler en interne. Et il est vrai que les actions qui peuvent être menées en interne de sensibilisation, d'intégration, et les axes qu'on peut fixer, notamment en matière d'économie sociale et solidaire, ont très souvent des résistances, notamment dans les services de développement économique ou d'autres. Et toute la question est la question de la transversalité. Donc, je posais la question à Daniel de Moustier, mais je pense que c'est important.
Merci pour votre intervention. Donc, une petite réponse, petite ou pas petite, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis des choses pareilles, à propos de l'interpellation de M. de la Fève sur la place des jeunes. Et c'est M. Mensch qui s'y colle.
Oui, donc il s'avère que à la faculté de Mulhouse, il y a une préparation, il y a une section en économie sociale et solidaire, et nous avons travaillé avec 17 étudiants qui préparaient le master 2 en économie sociale et solidaire, et qui donc ont vraiment baigné dans la sociologie locale en allant converser, c'est comme ça qu'on l'a appelé, donc avec leur sous l'égide de leur professeur. Avec la population, tout simplement sur le thème de la nature et pour connaître le sentiment, l'appréciation des habitants de la commune par rapport à la nature. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une forme de rejet sur le terme bio, Hein, bon, c'est vrai que ce n'est pas directement lié à l'économie sociale et solidaire, mais quand on développe la restauration scolaire qui est gérée par une entreprise d'insertion, voilà, qui remet donc le pied à l'étrier à un autre public qui est souvent aussi jeune, hein, il n'y a pas seulement les étudiants, il y a aussi ce public-là, très éloigné de l'emploi et qui permet de se réinsérer par ce biais-là. Donc il était important de connaître l'avis de la population, l'opinion de la population par rapport à ce terme bio sur lequel on sentait une sorte de rejet. Donc il s'est avéré que, voilà, je suis très réducteur en la matière, il s'est avéré qu'il y avait une sorte de rejet sur le terme bio, tout simplement parce qu'ils ressentaient ça comme une désappropriation de leur propre savoir et de leur culture, parce que n'utilisant jamais d'intrants dans leur potager, etc., pour eux, c'était une culture naturelle. Voilà, donc du jardinage naturel, mais pas bio. Donc une désappropriation de leur savoir. Donc c'est important aussi, c'était important pour les étudiants d'avoir ce contact avec la population. Et ils s'en ont sorti très renforcés et très enrichis. Également, on travaille avec, pour créer, par exemple, la SIC. On a travaillé avec deux stagiaires, toujours en économie sociale et solidaire, et en même temps, la création d'une monnaie locale. Alors, on parlait beaucoup de liens. Alors, on se lance dans la création de la monnaie locale qui va être lancée le 13 juillet, voilà, parce que c'est aussi un esprit citoyen et républicain, et c'est pour créer du lien, tout simplement, entre les gens, pour développer l'économie locale qui a beaucoup souffert. Parce qu'il y a beaucoup de délocalisation, en l'occurrence. Et donc, de ce fait-là, c'est créer plus de liens. C'est en quelque sorte un engagement patriotique. Voilà, le fait de cette monnaie locale, le fait aussi que la commune, petite commune de 2000 habitants, soit reconnue au niveau national, puisque nous avons obtenu le titre de territoire de commerce équitable. On parlait d'innovation, c'est aussi ça l'innovation. Donc on a le titre de territoire de commerce équitable, et on développe un certain nombre d'actions liées au commerce équitable. Tout ceci, on rentre dans cette... On donne l'exemple, on essaye de fédérer, d'adhérer un maximum de gens du village pour bien démontrer le bien fondé de l'opération et rentrer dans cette forme d'économie fraternelle. Et également, donc, ça c'est un autre registre, on a adhéré au réseau international de la citoyenneté mondiale qui œuvre pour la paix et la fraternité et contre la faim dans le monde. Et tout simplement pour situer le réseau, il y a 3 communes japonaises qui sont adhérentes. D'abord Hiroshima, hein, à cause de la bombe atomique, vous avez bien compris, mais aussi Kyoto à cause des accords pour la réduction des gaz à effet de serre, et en dernier Fukushima. Parce que, en l'occurrence, la commune située à 20 km de Fessenheim a pris une motion, bien sûr, pour la fermeture de cette centrale.
Merci. Merci, monsieur Mensch. Merci, madame Sasso. Merci à tous pour la qualité de votre écoute.